c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Kaolin FM avec Alain Jeanne.
Chut, on écoute la télé avec votre magasin But de Saint-Thierry et la Perche. Ameublement, literie, électroménager, décoration et pour tout projet de cuisine. L'équipe de projet et conception vous attend. Zone commerciale d'Arfeuil, route de Limoges à Saint-Thierry et la Perche.
Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.
Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Chute en écoute la télé l'hebdo sur Kaolin où vous nous écoutez chaque lundi à 14h et 19h par exemple et bien du côté de Saint-Thierry-la-Perche sur le 88.4 ou à Rochechouart sur le 88.9. Alors pendant une heure on va passer bien en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors ça tombe bien, tout de suite le sommaire de notre émission.
Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio.
Et très heureux de vous retrouver pour cette avant-dernière émission de la saison de Chut, on écoute la télé inédite avec, dans un instant, eh bien, une partie consacrée à la sortie du film Profession du Père, le nouveau film de Jean-Pierre Améris, qui sortira en salle le 28 juillet. Vous pourrez retrouver en avant-première du côté des Charentes les 18 et 19 juillet prochains en sa présence. Jean-Pierre Améris et Audrey Dana vont nous rejoindre dans un instant. Nous aurons également le plaisir de recevoir en fin d'émission Yarol Poupeau. Les Franco ont démarré il y a deux jours. Il l'a foulé de nombreuses fois la scène Jean-Louis Foulquier. Eh bien, Yarol Poupeau viendra nous parler de son album Hot Like Dynamite. Et puis, nous aurons le plaisir également de recevoir une des héroïnes de la saga de l'été de France 3, de Plus belle la vie, Prudence Leroy, alias Fanny. Et puis, nous aurons également le grand plaisir d'avoir Linda Hardy aujourd'hui au téléphone pour Camping Paradis. Elle viendra évidemment nous parler de cet épisode inédit qui sera diffusé ce soir sur TF1. Mais comme d'habitude, on va démarrer par les audiences de la semaine dernière. Alors c'est parti!
Les tops et flops d'audience.
Et on passe en revue donc les audiences de la semaine dernière, à commencer par lundi dernier, Camping Paradis qui cartonne avec 5 438 000 téléspectateurs et 25,5% de part de marché pour l'épisode inédit. Major Crime sur France 2 s'en sort pas trop mal, 2 233 000 téléspectateurs, 10,8% du public. Et petite audience pour M6 avec Abdel et la Comtesse qui fait seulement 7,6% du public pour 1 539 000 téléspectateurs. Et puis mardi, il y avait du foot sur TF1 avec l'Euro, Italie-Espagne, 40,4% de part de marché et 8 272 000 téléspectateurs. La Stagiaire sur France 3 résiste bien avec 3 544 000 téléspectateurs et 15,3% du public. Et Un amour de jeunesse, théâtre sur France 2 fait un petit score avec seulement 7,5% de part de marché et 1 717 000 téléspectateurs. Et les soirées se suivent et ne se ressemblent pas puisque mercredi, il y avait toujours du foot, mais ce coup-là, c'est pour M6, le carton. Angleterre-Danemark a été suivi par 6 833 000 téléspectateurs et 34,4% de part de marché. Et là, ce coup-ci, c'est un tout petit score pour TF1, qui termine à la troisième place avec Mamma Mia, 8,1% de part de marché et 1 708 000 téléspectateurs au coude à coude avec Déraciner des ailes sur France 3 et 1 650 000 téléspectateurs. Jeudi, il y avait Cassandre sur France 3 en rediffusion. C'est devant Harry Potter. Cassandre fait 3 779 000 téléspectateurs et Harry Potter fait 3 468 000. Surprise, surprise, fait un petit score sur France 2. Seulement 10,1% de part de marché, 1 895 000 téléspectateurs. Et Domino Challenge sur M6 s'effondre à seulement 1 414 000 téléspectateurs et 7,5% du public. Voilà ce qu'on pouvait dire juste avant d'accueillir l'équipe de Profession du Père. Jean-Pierre Améris et Audrey Dana viennent d'arriver. Ils s'installent et tout de suite, c'est donc notre coup de cœur ciné.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Et notre coup de cœur ciné cette semaine est consacré au film Profession du Père qui sortira au cinéma le 28 juillet prochain. Et c'est l'un de nos réalisateurs chouchous que l'on reçoit aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé, Jean-Pierre Améris. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour à tous, ça fait toujours plaisir de te retrouver à chaque film.
Et tu nous as fait un beau cadeau aujourd'hui puisque tu nous ramènes aussi Audrey Dana qui est là avec nous. Bonjour Audrey.
Bonjour.
Merci d'être là avec nous. On s'était rencontrés pour Si j'étais un homme, un film que tu avais réalisé, que j'avais absolument adoré aussi. Donc voilà, c'est un beau cadeau que vous nous faites en tout cas d'être là pour parler de ce film, peut-être un petit peu plus sombre que les précédents que tu as fait, Jean-Pierre.
Il se trouve en effet que ce film est basé sur un récit autobiographique de Sorge Chalandon, qui s'appelle « Profession du père », dans lequel il racontait sa propre enfance, lyonnaise comme la mienne, avec un père mythomane, hein, qui se présente comme héros de la résistance, parachutiste, champion de judo. Et ce petit garçon croit bien sûr son père comme on le croit à 10 ans, et va le suivre, puisque le père lui fait la complicité de l'entraîner, va le suivre dans des aventures un peu dangereuses pour un petit garçon. Donc il y a quand même quelque chose de très romanesque, hein, c'est une aventure d'enfant. Après, des choses plus mélancoliques se sont agrégées à ce projet, puisque j'y ai mis beaucoup de ma propre enfance, hein, et en recréant quand même cette ambiance familiale, c'est-à-dire avec un père, moi, qui n'était pas mythomane, mais tout de même fort violent quand même, avec ma mère, avec ma sœur, plus qu'avec moi d'ailleurs. Et j'ai voulu raconter, du point de vue de l'enfant, comment on vit ça quand on a 10 ans, quand les parents se disputent beaucoup, se crient dessus, qu'il y a des coups, qu'il y a des secrets, des choses qu'on ne comprend pas. Montrer la force de l'enfance, cette fameuse résilience dont on parle. L'enfant, c'est le héros du film, hein, quand même. Hein. Et il fait avec, quoi, voilà, les difficultés des parents. Et j'ai essayé de le faire avec amour, en tout cas. Hein. Je crois que les gens sont fort émus, hein, je crois. Parce que, malgré tout, moi j'aime mes parents, hein, qui ne sont plus de ce monde aujourd'hui, mais je les aime. Quoi. Je voulais presque le dire avec ce film-là. On aime les gens pour ce qu'ils sont, et puis quand on devient adulte, soi-même peut-être parent, on apprend que voilà, ils faisaient comme ils pouvaient. Quoi.
Mais on le ressent dans le film, que ça soit du côté de l'enfant, du côté de la femme que joue Audrey face à Benoît Poulvorde, il y a une espèce d'admiration, d'amour et de peur qui se mélangent effectivement vers ce père, on peut dire tyrannique. Mais alors moi, je voudrais qu'on mette l'accent vraiment sur ce jeune acteur qui est Jules Lefebvre. Je ne sais pas où tu l'as trouvé. Mais moi, j'ai trouvé ce petit Émile, mais absolument exceptionnel dans ce film.
En effet, hein, c'est le pivot du film. Hein. C'est vraiment un film sur la famille, hein, quand même, sur un trio, pour montrer que quand même, hein, lorsqu'une famille est un peu dysfonctionnelle, les choses se font ensemble. Hein. Et là, en effet, papa, tyran domestique, en effet, mythomane, maman, que joue merveilleusement Audrey, parce que c'est très près de ma mère, hein, tout de même, hein, et à la fois... qui a peur comme ça de son mari, hein, parce qu'il a des éclats de violence, soumise, mais aussi pleine de vie. Hein. Ma mère était absolument pleine de vie et un peu dans le déni aussi, à dire toujours « mais ça va aller ». Même après des crises terribles et tout, « mais ça va aller, c'est pas grave, c'est pas de sa faute ». Il y avait ça, et qu'il y a encore beaucoup. Moi, j'ai fait un film sur la violence conjugale déjà il y a 15 ans, et pour avoir rencontré beaucoup de femmes battues, il y a toujours ça. Quoi. Les coups n'annulent pas immédiatement l'amour, en tout cas. Hein. C'est aussi donc un des dangers du piège qui se referme. Et donc tout ça étant vu par un héros enfantin, je pensais beaucoup aux enfants évidemment de François Truffaut, les Jean-Pierre Léo, mais aussi les enfants de l'argent de poche, qui ont cette vivacité, cette force de résilience. Hein. C'est des petits soldats hein, quand même. Ouais. Hein. Les enfants, je veux vivre, j'aime mes parents, puis je veux rigoler. Enfin, c'est lui qui amène la vie dans le film aussi.
Il a l'œil lumineux.
Et je l'ai découvert dans un film belge qui s'appelle Duel, hein, dans lequel il avait déjà... un joli rôle, hein, pas aussi important que là. Et puis, dès qu'on s'est rencontrés, vous savez, mais c'est comme avec Audrey, comme avec Benoît, hein, avec les enfants. Hein. Moi, j'ai fait quand même pas mal de films avec des enfants, ça s'est toujours bien passé. Et on s'est sentis tous les deux de plein pied. Moi, je fais des lectures hein, avec les acteurs enfants, hein, comme avec les adultes. Hein, on explique les choses, je suis toujours là et je dis toujours, attention, nous jouons. Hein. Là, il y aura par exemple une scène où il se prend des coups de ceinture. Nous jouons, hein, c'est une représentation. Nous jouons sincèrement, le plus sincèrement du monde. Mais nous jouons. Hein. D'abord, tu ne vas pas prendre de coups de ceinture. Et puis, tu ne seras pas entraîné quoi, dans les affres que vit le héros. Donc, il s'est amusé. Et puis, grande complicité entre lui et Benoît Poulvorde.
Oui, là, il faut. Oui.
Merveilleuse complicité. Mmh. Deux Belges, peut-être, à jouer aussi. Mais aussi, grande complicité avec Audrey. Quoi. Cette maman est très... C'est encore une fois, c'est plus la mienne que celle de Sorge Chalandon. Elle est quand même aimante hein, aussi, hein, et elle le touche. Hein. Sorge Chalandon, quand il a vu le film, l'auteur m'a dit « c'est plus tes parents que les miens », parce qu'en effet, sa mère jamais ne lui aurait fait ne serait-ce qu'un baiser, ne l'aurait touché, ne l'aurait consolé quand il venait de se faire frapper. Moi, ce que faisait la mienne. Hein. Et belle complicité aussi entre les deux. Ce qui était délicat pour Audrey, c'est que voilà, c'est délicat quand un réalisateur dit à une actrice « là, vous allez jouer ma mère hein. ». Ouais. Ça met une pression, je crois, d'enfer.
Comment se prépare à ça? Tu as discuté beaucoup avec Jean-Pierre, Audrey? Comment ça s'est passé?
Oui, quand même. Hein, on a beaucoup lu le scénario ensemble. Il m'a beaucoup parlé de sa maman. Du coup, je me suis vraiment remise à lui sur le plateau. Je m'en suis remise à lui. Et ça, il ne le sait peut-être pas, mais en tout cas... inviter l'énergie de sa mère à m'habiter. Donc j'étais comme guidée, transportée. Et puis quand c'était pas exactement sur les rails, bah du coup lui qui qui connaît le personnage très bien, oui, m'y remettait instantanément. Donc ça a été quelque chose pour moi d'étonnamment doux en fait, très accompagné. Alors qu'on pourrait croire que de ce type de personnage peut être éprouvant et pas du tout en fait.
Ce qui donne peut-être aussi, j'espère, aux spectateurs, aux spectatrices, la paix, je crois, paradoxale qu'apporte le film, hein, cette consolation et cette douceur paradoxale, avec des scènes parfois violentes, mais en même temps nimbées d'amour, c'est que quand même j'ai aussi du recul, quand même, hein, presque 60 ans quand même, et je peux voir les choses, voilà, mes parents, encore une fois, voilà, comme des humains, comme tout le monde. Moi, j'ai des choses du père, hein, quand même, hein, je dois le dire aussi, hein, je ne suis pas que l'enfant, hein, j'ai aujourd'hui dans ma vie, hein, des violences, hein, comme le père, je les sais là, quoi, hein. Elles sont tapies pas loin et je les maîtrise peut-être mieux. Il faut dire aussi que c'est une génération, hein, mes parents, hein, il fallait surtout pas parler d'aller voir un psychologue ou d'avoir un problème, hein. Mon père était obligé de tenir le rôle, en plus corse, du macho qui réussit tout, alors qu'il était pétrifié de trouille devant la vie, quoi. C'est lui, hein, que j'avais cité aussi dans les émotifs anonymes, hein, qui disait toujours, de toute façon, tout est de la merde, la vie est pourrie, qu'est-ce qui va nous arriver ? Pourvu qu'il ne nous arrive rien, on vivait dans la peur, hein, quand même. Dès que le coup de la téléphone sonnait, tout le monde sursautait, c'était forcément l'annonce d'une mort. Donc encore une fois, j'avais ce recul pour voir tout ça avec douceur. J'aurais peut-être pas pu faire le film, ne serait-ce qu'il y a 10 ans.
Audrey, la rencontre avec Jules, les premiers essais, la première rencontre avec celui qui allait jouer ton petit garçon.
Merveilleux, il est complètement étonnant. J'ai eu la chance de rencontrer sa maman, qui était là beaucoup sur le plateau, qui est une femme incroyable et extrêmement saine. En fait, c'est comme si cet enfant avait cette maturité, cette capacité à l'abandon du jeu, parce qu'il était vraiment hyper structuré. Donc, on avait un grand acteur face à nous de 10 ans. Voilà. Et c'était drôle, d'ailleurs, ça nous a fait beaucoup rire avec Benoît, parce que on est censé être des acteurs professionnels, et puis on se retrouve avec un gosse qui fait le même boulot que nous, en fait, hein, exactement le même. Avec,
et qui vous tient bien tête, même... finalement.
Non, mais la même maîtrise, la même capacité à improviser, la même capacité à en faire trop, la même capacité à... Mais incroyable! Donc, ça fait relativiser notre métier, parce que, en fait, voilà, au final, c'est jouer. Jouer, juste être capable de s'abandonner à jouer. Ouais. Et c'est quand un enfant est capable de le faire avec une caméra, parce qu'il le fait tout le temps sans, avec une caméra, c'est rare et précieux. Donc, belle rencontre, on s'est éclaté, on a joué, en fait. Voilà.
Il y a des très belles scènes, en tout cas, entre vous deux, qui sont vraiment remplies d'émotions, comme Jean-Pierre sait si bien les mettre en scène aussi. On va écouter la bande-annonce. Profession du père, ça sort le 28 juillet prochain au cinéma. On écoute la bande-annonce.
Profession du père, parachutiste. Et les parachutistes, ton père est mine.
Debout, rebelle. 25, 26. J'ai vu qu'il y avait deux types derrière toi. Et là, je me dis, merde, je vais encore être obligé de me battre.
T'as pas reçu de coup ?
Non, moi non, mais lui, il est dans un sale état, je peux te le dire. C'est les compagnons de l'ascenseur. C'est moi qui les ai créés. Tu savais que j'avais été ceinture noire de judo, deuxième dame ? J'étais un as de guerre, donc on avait tous les droits.
Faut pas croire tout ce qu'on peut te raconter.
Même ton père.
La nation bravée, notre
bruit. Tu n'as pas de parole. Acceptes-tu de rejoindre le camp de la France? Exactement comme moi.
Comme toi.
Allez, Audrey Dana et Jean-Pierre Améris, reste avec nous. On fait une petite pause et on revient dans un instant dans Chut, on écoute la télé pour la suite. À tout de suite.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite.
Je t'imagine fleurie, de la tête aux pieds en robe bordeaux. Du genre un peu hippie, à ne pas te soucier des infos. Je te vois et toi, tu danses, danses devant le soleil qui te bronze. De trois pas et tu t'avances avant de faire filer les secondes. Moi je serai pendu à ton cou, comme le médaillon de ton collier. Tu vas me prendre pour un fou, mais je te vois dans mes nuits d'été. Et je te vois, tu souris, et tu souris encore. Tu n'attends pas que la pluie s'éteigne avant d'aller dehors. Et je te vois, tu souris, et tu souris plus fort. Pour que se devine la pluie, qu'elle laisse place au rayon d'or. Au rayon d'or. Je t'imagine plutôt sobre, les mains décorées de quelques bijoux. Sur une guitare que t'accordes, un ruban attaché au bout. C'est donc ça de te reconnaître, sans t'avoir encore parlé. N'en fais pas, j'ouvre ma fenêtre, je laisse un regard s'envoler. Moi je serai pendu à ton cou, comme le médaillon de ton collier. Tu vas me prendre pour un fou, mais je te vois dans mes nuits d'été. Et je te vois, tu souris, et tu souris encore. Tu n'attends pas que la pluie s'éteigne avant d'aller dehors. Et je te vois, tu souris, et tu souris plus fort. Pour que se débine la pluie, qu'elle laisse place au rayon d'or. Au rayon d'or. Et si tu vois en état d'âme, si parfois quand tu te parles tu m'entends, rejoins-moi où le vent est calme, à l'ombre du temps. Je te vois, tu souris, tu souris encore. Tu n'attends pas que la pluie s'éteigne avant d'aller dehors. Et je te vois, tu souris, et tu souris encore. Tu n'attends pas que la pluie s'éteigne avant d'aller dehors. Et je te vois, tu souris, et tu souris encore. Tu n'attends pas que la nuit s'achève avant d'aller dehors. Je te vois, tu souris, et tu souris plus fort. Pour que se débine la pluie, qu'elle laisse place au rayon d'or. Au rayon d'or.
Chute, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, de retour dans Chute, on écoute la télé pour notre spéciale profession du père. Audrey Dana et Jean-Pierre Améris sont nos invités aujourd'hui. On va parler un petit peu des scènes. Alors, on a planté un petit peu l'histoire en première partie. Moi, j'aimerais savoir quelles sont les scènes qui vous ont le plus impressionné, peut-être, à mettre en boîte. Parce que quand on voit Benoît, par exemple, s'acharner sur le petit, le prendre par les pieds, voilà, on ressent, nous, dans le public, voilà, une espèce d'émotion où on a envie qu'il se sauve, qu'il s'échappe. La maman lui dit « Va-t'en, va-t'en ». Est-ce qu'il y a des scènes comme ça particulières qui ont été plus difficiles que d'autres à mettre en boîte, Audrey ?
Oui, vraiment. Toutes les scènes de violence ont été vraiment... bon, il a été génial, Jean-Pierre, avec nous, parce qu'il a... Il n'a pas pris son temps, en fait. Hein. C'est pour pas qu'on reste dans ce malaise-là, parce qu'à partir du moment où on interprète, on y est quand même. Il a fait en sorte que la journée passe le plus vite possible. Donc ça nous a beaucoup aidé. Mais je dois avouer que les scènes de violence, quand on y est, on y est. Il y a un enfant qui est au milieu de tout ça. Donc moi, c'est vraiment venu... Et rien que d'y repenser, ça me donne envie de pleurer.
Ouais. J'ai aussi, dans le public.
Ouais. Oui, et puis aussi parce que ça m'a réveillé des choses. C'est-à-dire que d'un seul coup, j'ai, au moment où on tournait ces scènes, j'ai des moments de mon enfance qui sont remontés que je pensais pourtant avoir oublié parce que je ne suis pas du tout une enfant battue. Et moi, je n'ai jamais pris de coups. Mais en fait, il y avait de la violence dans mon entourage, c'est-à-dire des trous dans les murs et certains de membres de ma fratrie qui étaient battus en fait. Et quelque part, d'assister à la violence en étant témoin, c'est-à-dire que c'est violent, l'énergie est là, et en plus de ça, on culpabilise, qu'on se dit pourquoi c'est pas moi qui prends les coups. Donc tout ça, voilà, c'est venu gratter tout ça, tous ces moments où en fait on a peur et on sait pas comment s'y prendre. C'était déstabilisant, perturbant, mais rapide, parce que Jean-Pierre, il savait, il avait pas envie plus que nous en fait qu'on s'éternise, comme parfois on peut se prendre la tête sur des plans, chipoter, je sais pas comment dire. Là, il était dans un truc de, en fait, on va pas se rater, on va la faire. Et on finit avec cette journée très vite. Et du coup, ça nous a beaucoup, beaucoup aidé. Et puis ensuite, il y a la scène de Noël aussi qui est venue vraiment toucher quelque chose au très fond de mes entrailles. Parce que Noël, c'est la famille. Noël, c'est la célébration. Et que, comme il me disait tout le temps, elle est faite pour le bonheur, cette fille. Elle est faite pour la joie. Et donc, de jouer cette maman qui donne tout... pour que ça ressemble à quelque chose de normal, entre guillemets, quoi, à ce que ça devrait être. Et voir tout ce qu'elle ravale. Et puis, bon, la soirée se passe comme elle se passe, quoi. Ça aussi, c'était touchy pour moi. Le reste, c'était du bonheur de comme je disais, voilà, de danser avec Jean-Pierre qui me dirigeait merveilleusement bien et d'être avec deux immenses partenaires avec qui il est vraiment pas possible en fait d'être à côté parce qu'ils y sont, parce qu'ils sont dedans quoi. Donc faudrait être vraiment malade comme un chien pour pas plonger dans l'histoire quoi. Ils te prennent la main et fam, ils te font tomber dans le truc. Donc c'était libre et fluide et joyeux.
Alors, malgré tout, hein, pour que nos auditeurs prennent pas peur, ce n'est pas un film hyper violent non plus. Non. Ne vous inquiétez pas, tout ça est filmé toujours avec beaucoup de pudeur, mine de rien, Jean-Pierre.
Et puis oui, ça parle de quelque chose que tout le monde connaît hein, quand même. Hein. C'est qu'est-ce qui fait que même dans une famille où on s'aime, il y a toutes les frustrations. Hein. Le père a beaucoup de frustrations, on sent qu'il a un gros problème avec le réel, il ne travaille pas, donc il s'invente un monde. Hein. Et puis c'est de la faiblesse, on le sait, la violence, hein, quand même, hein, chez ces hommes-là en particulier. Hein. C'est de la grande faiblesse, hein, en fait. Hein. Et donc, comme mon père et tout, c'est des tyrans domestiques parce qu'ils veulent que tout soit réglé au cordeau. Et encore une fois, il ne s'agit pas de minimiser la violence qu'il y a dans le film, mais c'est quand même une violence réaliste. Enfin, je sais pas,
oui,
c'est comme chez
fait.
Maurice Pialat dans À nos amours, quoi. C'est magnifique, on s'y reconnaît tous parce que les gens le savent, mais en même temps, s'engueulent, quoi. Hein. C'est quand même dans toutes les familles. Et je vois bien les réactions au film. Les gens, ça leur fait du bien plutôt quand ils voient le film, ça, parce que ça console. Tiens, je ne suis pas seul. Moi, quand j'étais enfant, ce qui me serrait le cœur, je me souviens, et c'est ça qui m'a fait garder une phobie des fêtes de fin d'année, par exemple, et même des fêtes en général, parce que c'est vrai que c'est un moment tellement angoissant, quoi. On sait que ça va mal finir parce qu'il y a des tensions, et en même temps, on est obligé d'être heureux. Et je me souviens toujours, quand ça finissait mal, les réveillons,
ah bah, de toute façon,
que
c'est
ma
ça,
mère regardait par la fenêtre l'immeuble d'en face, et elle disait, regarde, les gens, ils sont heureux chez eux. Et
ça, c'est les fêtes ça. De fin d'année, les mariages, généralement, c'est là que ça éclate en famille.
Et voilà, mais tout le monde, on le sait, ça, quand même, que dans la famille, il y a forcément, de toute façon, des tensions. Ce que montre le film, et en quoi il est positif, vous savez que j'essaye toujours que le spectateur ou la spectatrice sorte du film consolé et avec une envie de repartir vers la vie avec enthousiasme, c'est qu'on voit que l'enfant va apprendre à se séparer de ses problèmes de ses parents, quoi. Qu'à un moment donné, ce qui sauve d'abord, c'est sa passion du dessin. Moi, je me suis beaucoup identifié à ça parce que moi, c'était la passion du cinéma. Il faut encourager les enfants, les adolescents à trouver leur passion, quoi, hein, parce que c'est ça. Et le petit, à la fin, dit à son père, c'est toi qui es fou, c'est pas moi, quoi. Arriver à faire la part des choses. Donc, encore une fois, voilà un film qui fait pas l'économie hein, des tensions qu'il peut y avoir dans la famille, mais qui dit aussi, voilà, quelque chose de cet amour étrange, quoi, qui nous lie à nos parents.
Tu retrouves Benoît Poulvorde, avec qui tu as déjà travaillé, évidemment, sur les émotifs anonymes, notamment. C'était une évidence, Benoît et Audrey, pour jouer ce couple.
Honnêtement, une absolue évidence hein, pour l'un et pour l'autre. En écrivant, vraiment, c'était Benoît Poulvorde, dont j'avais su qu'il avait beaucoup aimé ce récit, dont je savais que ça pouvait avoir des échos aussi avec sa propre enfance. Mais encore une fois, comme tout le monde, hein, finalement, on se rend bien compte que tout le monde s'y retrouve hein, dans cette histoire. Et c'était formidable, après deux comédies, Les émotifs anonymes et Une famille à louer, de faire avec lui un film plus dramatique et dans lequel il joue ce tyran domestique. La seule chose qui m'a tout de suite demander presque, hein, c'est est-ce que tu l'aimes ce père ? Et je lui dis évidemment, j'aime mon père, quoi. J'aimais mon père, hein, et je vais aimer ce personnage. Il souffre aussi, quoi. Les autres en sont victimes, mais il souffre aussi. Et le film va quand même vers l'apprentissage du pardon aussi, hein, quand même. Voilà, c'était que des pauvres êtres humains comme nous, quoi. Hein. Pas mieux, pas moins bien. Ce qui est merveilleux chez Poulvorde, mais aussi finalement chez Audrey avec cette femme, c'est qu'ils cherchent pas, ils font aucun clin d'œil, quoi. Hein. Cette maman a peur et elle n'intervient pas. Et on peut pas dire moralement, mais pourquoi elle n'intervient pas? Pourquoi elle dit pas à son mari, arrête avec notre fils? Non, c'est les choses humaines, hein, comme on dit. Hein.
Parce qu'on sent malgré tout beaucoup d'amour dans cette famille. C'est ça qui est assez incroyable.
Que de l'amour, quoi. C'est ça, mais l'amour, c'est pas gnangnan. C'est quelque chose de fort, et il faut simplement faire avec nos faiblesses. Et encore une fois, aussi, une névrose familiale, hein, la violence en est une, dans la famille, ça se fait ensemble. Là, c'est papa, maman, le fils aussi. Hein. C'est vraiment une trinité.
Hein. Audrey, sans spoiler, évidemment, ça fait quoi de se voir avec 25 ans de plus?
Écoutez, moi j'ai adoré avoir l'opportunité de faire un saut dans le temps et de voir à quoi je pourrais ressembler grand-mère. Moi j'ai une passion pour le temps qui passe et apparemment c'est une pensée à contre-courant parce que les gens redoutent beaucoup le temps qui passe, les rides, les cheveux blancs et tout. Moi j'adore, j'attends que ça, devenir grand-mère. Donc c'était plutôt cool. J'espère que je vieillirai un peu mieux que cette femme, mais je devrais parce que mon environnement, mon mari est moins mythomane, donc je pense que je vais.
Ah. Jean-Pierre, il a l'air de dire quoi que.
Je pense que je vais vieillir peut-être un peu plus doucement que cette femme. Non, c'était chouette, c'est vraiment la magie du cinéma, ça.
Profession du père, ça sort donc le 28 juillet au cinéma. Merci à tous les deux d'être passés nous voir pour cette spéciale. N'oubliez pas, avant-première, donc les 18 et 19 juillet du côté des Charentes en présence de Jean-Pierre. Merci à tous les deux encore une fois.
Avec plaisir.
Avec plaisir. Au revoir.
J'ai une mission pour toi.
Écoute, moi, je suis désolée. Il est tard, il fait nuit, c'est non.
Et qu'est-ce que tu cherches là? Tu cherches à saper mon autorité là?
C'est juste qu'il est tard et qu'il a 11 ans.
Je m'en fous qu'il soit tard!
Pourquoi il est comme ça, papa?
Tu sais, faut pas lui en vouloir à ton papa.
C'est toi qui vas tuer de vol.
Votre fils nage en plein délire. Vous trouvez ça normal, vous, d'avoir le projet de tuer de Gaulle? Vous mesurez la gravité des choses?
Vous avez raison. Notre enfant est complètement fou.
Il t'en fait voir, hein.
Non, ça va.
Tu peux me raconter, tu sais.
Vous êtes tous les deux contre moi?
C'est pour toi, je voulais tuer de Gaulle!
T'as un petit problème!
C'est toi qui es fou, papa.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Coup de cœur télé consacré à Camping Paradis qui revient pour un deuxième épisode inédit ce soir sur TF1. Quel bonheur de retrouver parmi les guests Valérie Beg, Patrick Puydeba et Linda Hardy. Bonjour Linda, merci d'être avec nous.
Bonjour, merci de me recevoir.
Alors on a quitté le rôle de Clémentine, tous les fans sont complètement désespérés de t'avoir vu partir de Demain nous appartient. On va pas revenir évidemment sur ce départ qui a été largement commenté partout, mais là on va te retrouver avec Corinne dans ce rôle ce soir dans Camping Paradis. Corinne, tu es la femme de Patrick Puydeba pour le coup dans l'épisode de ce soir. On va beaucoup rire et je pense que t'as dû beaucoup rire aussi sur ce tournage à mon avis.
Ouais, bah, Camping Paradis. Enfin, moi, c'était la première fois que je le faisais. J'étais hyper contente. J'ai rencontré Patrick pour la première fois. Donc, il joue le rôle de mon mari. Et l'ambiance était géniale. Les lieux sont super jolis. On a tourné en octobre de l'année dernière, si mes souvenirs sont bons.
Ouais.
Il faisait très beau. C'était chouette. Je comprends que ça soit un immense succès depuis autant de temps. Parce que les intrigues sont... Les histoires sont jolies, c'est sympa et en même temps, il y a toujours de l'émotion.
C'est ça, puis ça finit toujours bien. Donc, on sait que voilà, on va pas partir en drame et c'est vrai que ça finit toujours bien. C'est ça qui est chouette aussi.
Ouais, on a besoin de ça en ce moment.
Oh oui, on a besoin de beaucoup de positivité là-dessus. Je te rejoins. Alors, tu vas jouer le rôle, effectivement, on le disait, de Corinne, la femme de Patrick Puydeba, qui, lui, arrive au camping pour la première fois aussi. Par hasard, soi-disant, jusqu'au moment où il va retrouver son ami, sosie officiel de Johnny Hallyday, joué par Didier Gustin. Et là, on va partir dans des quiproquos absolument hallucinants. Et Didier Gustin, ouais, il est juste incroyable dans ce rôle aussi.
C'est un très très bon imitateur et c'est aussi un très bon comédien. Il est touchant, mais Patrick aussi. Moi, j'ai adoré bosser avec eux parce que bon, on n'avait pas beaucoup de scènes hein, avec Didier, mais ils sont très très authentiques. Tous les deux. Je trouve que voilà, c'est agréable de voir des acteurs comme ça, puis ils sont cool, enfin sympas dans la vie. C'est vraiment vraiment chouette et l'histoire est sympa. Effectivement, cette famille arrive au camping a priori pour recoller un peu les morceaux parce que le couple a traversé des moments difficiles. Sauf que effectivement, Patrice, donc qui est joué par Patrick Puydeba, ne vient pas finalement. Totalement par hasard ici, et ça Corinne ne s'en doute pas du tout.
Et c'est là que va démarrer effectivement l'histoire.
C'est là que va démarrer l'histoire, les ennuis, les quiproquos, voilà, et lui qui essaye de cacher la raison pour laquelle il est là, et elle va malgré tout finir par le découvrir.
Alors moi, il y a une scène, sans déflorer évidemment l'histoire, où Didier Gustin chante, ouais, pour le coup, au Camping Paradis, sur du Johnny, évidemment. Et alors là, il y a une scène à mourir de rire, où que là, évidemment, tu t'aperçois que Patrice, français. Et donc là, il peut pas s'en empêcher parce que lui aussi était sosie officiel de Johnny avant, et il peut pas s'empêcher de chanter, d'essayer d'accompagner un peu Didier Justin. Et toi, tu lui lances.
De jouer la mesure.
Mais oui, et toi, tu lui lances des regards mais assassins. Cette scène est à mourir de rire. Je me demande comment t'as réussi à garder ton calme là.
Ah bah ouais, on était obligés, mais c'est vrai qu'au début. Parce que lui, j'en ris rien qu'y repenser à cette scène quand on l'a tournée. C'est vrai que ouais, c'était vraiment chouette. Il était à fond dedans. Et moi, j'étais à fond dans mon personnage aussi. Et puis après, suivre quelques scènes d'émotion qui, je crois, sont assez belles aussi. Enfin, en tout cas, je l'espère.
En tout cas, c'est une belle histoire. Encore une fois, il y a plusieurs intrigues, hein, évidemment, dans cette soirée que vous verrez avec notamment Valérie Bègue aussi. Ouais. Il y a tout plein de guests. Tu avais déjà regardé quelques épisodes de Camping Paradis, je suppose, peut-être, toi, avant d'arriver
ouais,
sur la série.
J'en avais vu quelques-uns, ouais.
Et alors,
ouais.
Quand on arrive sur les décors comme ça, c'est impressionnant.
Bah oui, parce qu'en fait, c'est comme tous ces décors qui sont reconstitués. Donc, en fait, on est dans un vrai camping, un vrai décor. C'est chouette. C'est pas toujours le cas. Moi, justement, quand j'étais dans Demain nous appartient, on peut avoir des décors qui sont des décors en intérieur, qui sont des décors reconstitués en studio. Et c'est sympa d'être en pleine nature. C'est évidemment, en plus, une très belle région. Puis, on a l'impression d'être un peu en vacances, quoi. Alors, il y a toujours comme il y a toujours ces fameuses soirées, il y a toujours des nuits. Donc, il y a toujours deux nuits où, qui sont ouais. fraîches, en général, hein.
Et oui, surtout en octobre.
On est en pleine tenue d'été, mais par contre, on tourne déjà presque en hiver. Mais c'est des jolis décors, c'est vraiment une belle ambiance.
Bon, on te retrouve donc ce soir dans cet épisode Allumer le camping. Est-ce que tu as d'autres projets pour la suite? Est-ce qu'on va te voir bientôt dans d'autres choses aussi, Linda?
Bah, les différentes choses qui sont en discussion, pour l'instant, je peux pas trop en parler parce que, vous savez, tant que les choses sont pas signées, moi, je préfère rester discrète.
Bon, ça sera l'occasion pour toi de revenir nous en parler comme ça.
Ouais, avec grand plaisir, je reviendrai.
Bon, on espère te retrouver en tout cas très très vite sur nos écrans et on va profiter de cette soirée avec toi et toute l'équipe du Camping Paradis soir super. À 21h10 sur TF1 et on va se quitter avec un petit extrait. Merci beaucoup Linda et à bientôt.
Ben, je t'embrasse, merci beaucoup de m'avoir reçu, à bientôt.
À bientôt.
Ah bah Coco, c'est beau là, on va être bien ici.
Ouais, c'est sympa de découvrir un endroit qui nous change comme ça.
Vous aviez vos habitudes?
Bon, disons qu'on faisait toujours les mêmes choses.
Justement, on est là pour casser la routine. Hein. L'important, c'est aujourd'hui, pas hier, c'est ça?
Si tu le dis.
Bon.
Et vous nous avez trouvé comment?
Tout à fait par hasard, sur Internet. Comme on l'a vu, vous proposiez beaucoup d'activités. Tu vas pouvoir te mettre au paddle, ma chérie?
Ah, oui.
Ah, moi, je dis tout le temps, les vacances en famille, c'est l'occasion de découvrir des choses ensemble.
Ah ben, surtout qu'on n'a pas eu de moments ensemble comme ça depuis des siècles.
Bah, justement, on est là pour ça, donc. Hein.
Pour le travail?
Oui, en quelque sorte.
Coup de cœur télé consacré à Plus belle la vie, c'est la saga de l'été en ce moment. Depuis le 30 juin dernier, on est embarqué dans des aventures paradisiaques sur une île déserte, quoique pas tout à fait, avec Prudence Leroy justement qui est avec nous pour en parler toutes les semaines. On met un personnage à l'honneur. Bonjour Prudence.
Bonjour, bonjour Alain.
Quel bonheur de t'avoir avec nous, c'est ce que je dis depuis que t'es arrivé dans la série. Ton personnage, c'est un vrai rayon de soleil dans la série. On a vraiment plaisir à te voir non seulement sur la place du Mistral, mais là, dans des aventures totalement exotiques, hein, on va le dire. Hein.
Oui, merci beaucoup, ouais. C'est exactement ça. C'est vraiment des intrigues qui sont paradisiaques et assez exceptionnelles. Ouais.
Alors pour le coup,
mais mystérieuses.
Ben oui, une île mystérieuse. On va y revenir, Prudence. Mais déjà, moi, la première chose que j'ai envie de te demander, quand t'es arrivée dans Plus belle la vie, il y a pas très longtemps, tu te retrouves déjà au cœur d'une grosse intrigue d'été comme ça. Comment t'as réagi quand tu l'as su?
C'était vraiment étonnant et vraiment surprenant. Je m'y attendais pas du tout, surtout qu'ils m'ont vraiment annoncé au fur et à mesure des semaines. Ça a vraiment été une surprise. Je savais même pas si mon personnage finalement allait vraiment rester après mon arrivée au Mistral dans le restaurant du Martin. Donc quand ils m'ont annoncé que je faisais partie de la saga de l'été, ça a été vraiment un bonheur, vraiment une belle surprise.
J'ai vraiment l'impression que les trois personnages qui sont arrivés vraiment avec Romain et puis Valentin Carrier et toi, c'est vraiment trois personnages que le public a tout de suite aimé, qui n'étaient pas forcément prévus pour rester très longtemps et puis finalement qui ont été totalement adoptés par les fans de la série. Ça fait plaisir aussi.
Effectivement, c'est vrai que nous trois, on se sentait totalement privilégiés de pouvoir se retrouver ensemble pour tourner dans cette saga, en sachant qu'on était vraiment des nouveaux personnages. Et effectivement, David Bann, qui joue le rôle de Valentin, nous disait à quel point il était content d'être appelé à chaque fois, parce qu'il était jamais sûr de revenir. Il faisait partie encore des nouvelles intrigues et là de cette saga. Donc on sait vraiment la chance qu'on a, et Simon également.
Alors, la saga a commencé très très fort, puisque vous partiez pour une croisière écologique avec Bilal, avec Rocha, enfin avec tout plein de personnages, avec Laetitia.
Ouais.
Et donc Laetitia, qui est devenue une de tes meilleures amies dans cette croisière pour le coup,
ouais.
Jusqu'au moment où vous vous êtes échoué sur une île déserte, sur deux endroits différents. Alors le but évidemment, c'est de vous retrouver, mais le mystère vient de ton personnage principalement. Alors moi, si j'ai bien compris, j'ai l'impression que ton personnage, il a des visions, qu'il se voit petite sur cette île, et que Fanny a l'impression d'être déjà venue à cet endroit-là.
Tout à fait, c'est vraiment ça. Elle a un sentiment de déjà-vu, mais elle ne sait pas si c'est dû à la fatigue, si c'est réel. Elle est un petit peu perdue dans ses visions, ses hallucinations qu'elle a. Elle a vraiment ce sentiment, par contre, de déjà-vu, justement, qui va après, justement, se concrétiser avec la rencontre d'un nouveau personnage.
On a vraiment l'impression aussi que cette petite fille, c'est toi petite, quoi. Elle a été choisie, mais vraiment incroyablement bien, c'est vrai. Non, mais on a vraiment l'impression que c'est toi avec 20 ans de moins, quoi.
Oui, c'est vrai que les équipes de casting, Eric Hénon et toutes les équipes de production, ont fait vraiment un beau travail en rencontrant, en sélectionnant cette petite Nina. Et elle a été formidable, elle est vraiment formidable. Et elle va vraiment surprendre au fur et à mesure des épisodes, ouais.
Prudence, là, le tournage de cette saga là est terminé, on va le dire quasiment, puisque là, on va vous voir comme ça jusqu'à la fin de l'été. Mm-hmm. Quel principal souvenir tu garderas de cette saga? C'est vraiment un peu justement le côté hermétique de ce tournage entre vous, là, pour le coup, par exemple.
C'est vraiment ça. C'est des rencontres exceptionnelles, vraiment des rencontres et une alchimie sur le tournage, de se retrouver, que ça fonctionne aussi bien entre nous tous. C'était vraiment une énergie de troupe, de théâtre, de groupe, totalement unis, avec de la bienveillance, beaucoup d'énergie, et toujours un bonheur de se retrouver, même si on avait des longues journées. On avait tellement une bonne ambiance, et c'est vrai que non, la rencontre de Rebecca Hampton, avec qui j'avais jamais tourné, qui est vraiment une pionnière de Plus belle la vie, qui a été juste incroyable. Vraiment, elle m'a accueillie avec tellement de bienveillance, et elle est tellement pétillante. David Bann, pareil, il a su mettre vraiment une énergie exceptionnelle à chaque fois sur le plateau, et Caroline, Charles qu'on a embarqué vraiment dans des aventures et dans des situations assez exceptionnelles, qui avait toujours le sourire et l'énergie. Alors, qu'elle, c'est vraiment...
C'est l'ambianceur de la troupe.
Ah oui, non, mais vraiment, c'est... Moi, je crois que je suis vraiment sa fan à laquelle je peux rigoler, mais vraiment à chaque fois. Et on a su... On a essayé de rester concentré à chaque fois. Et ça, c'était quand même... C'était une sacrée aventure. Vraiment, je pense que les rencontres, c'était vraiment une sacrée aventure. Et d'ailleurs, Simon et également Erlacher, avec qui j'ai beaucoup tourné. C'était vraiment que des belles rencontres. Et voilà. Et vous allez découvrir d'autres personnages encore.
Oui.
Vraiment,
oui.
Parce que là, on est à la fin du tournage, mais il y a encore d'autres personnages qui vont arriver, qui ont été aussi des merveilleuses rencontres. Toutes les équipes techniques ont été juste formidables. Voilà ce que je vais retenir de cette saga. Dans des conditions paradisiaques exceptionnelles, parce
tu m'étonnes.
Qu'on a la chance de tourner dans des vrais décors.
Eh oui, tout tourner en décor naturel. Alors pour rappeler un petit peu ce qui s'est passé la semaine dernière, t'es tombé dans un trou, évidemment. Donc Romain, en rappel, est descendu dans ce trou. Et toi, au moment où tu te réveilles, il y a un beau jeune homme qui arrive comme ça à ton chevet.
Exactement.
Et là, le mystère
s'épaissit
encore un peu plus. L'homme sauvage. C'est le Robinson.
L'homme sauvage, exactement, qui est joué par Léo Romain. Et c'est vraiment le personnage aussi, le mystère qui va débarquer dans cette saga, qui va chambouler beaucoup de choses, qui va apporter encore tout plein de chamboulements à cette saga, à ces intrigues. Et il se passe tout plein d'autres choses, parce que du coup, Fanny est isolée avec cet homme sauvage, mais les aventures continuent de l'autre côté. Et ensuite, le groupe est sauvé finalement, dû à plusieurs situations. Voilà.
Ben, on espère bien. On va voir au fur et à mesure leurs aventures, évidemment, tout au long de cet été. T'as vu, on n'en rate pas une bouchée. Hein. T'as remarqué.
Oui, vraiment, oui.
Bon, prudence, la surprise aussi, c'est que tu es venu tourner dans notre belle région de Nouvelle-Aquitaine, la suite des mystères du Bois Galant, qui s'appelle les mystères de l'école de gendarmerie, dont on a proposé d'ailleurs en région une avant-première la semaine dernière, et donc on t'y voit pour un petit rôle, donc t'es venu tourner par chez nous aussi.
Tout à fait, tout à fait, j'ai eu la chance d'interpréter le rôle de Lucie Delgado. Et voilà, une gendarme, vous allez découvrir cette aventure.
Qui a été victime de bizutage dans le film. Voilà, vous verrez un petit peu ça a lien évidemment avec l'enquête et les mystères de l'école de gendarmerie. On le découvrira d'ailleurs certainement à la rentrée sur France 3 également. Tu as d'autres projets aussi, Prudence ?
J'ai d'autres projets qui vont arriver également pour la rentrée, notamment avec Camilou, aux côtés de Camilou pour une série qui arrivera bientôt. Donc non, c'est formidable, je suis très contente.
Bon, on va suivre tes aventures en tout cas tout au long de l'été. Merci beaucoup Prudence d'avoir été avec nous. Et puis on te
merci
souhaite plein de belles choses.
Ben merci beaucoup, vraiment.
Allez, à bientôt.
Plein de bonnes choses à tout le monde.
Oui,
à très vite.
À très vite, on va se terminer avec un petit extrait. À très vite Prudence, merci.
Merci.
Il y a quelqu'un ? Aidez-moi s'il vous plaît.
Non mais tu te rends compte qu'on peut y rester là ? Chaque jour qui passe est pire que le précédent.
Stop !
On est perdu là, paumé en pleine nature.
Stop, arrêtez !
Séparés des uns, des autres.
Arrête !
Vous connaissez quand même que cette histoire est bizarre.
C'est de l'avoir amoté qui serait tendu.
Qui vote pour que ce soit Monsieur Rochat qui tue le lapin ?
Eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente première écolo-croisière by GTS. Et je ne doute pas que nous en reviendrons tous transformés.
C'est bon, si vous m'embrassez. Rappelez-moi votre âge.
À peine la moitié du vôtre.
Voilà, les péripéties des naufragés, c'est en ce moment la saga de l'été. Plus belle la vie du lundi au vendredi à 20h20 en ce moment sur France 3. On va se retrouver dans un instant pour terminer l'émission avec Yarol Poupeau, le guitariste de Johnny, va nous parler de son album Hot Like Dynamite. Alors rendez-vous dans quelques instants. À tout de suite dans Chute, on écoute la télé.
Bouge pas, bouge pas. Chute, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite. on écoute la télé, le talk show radio.
Allez, on va parler musique, évidemment, puisque les Francopholies de La Rochelle ont démarré il y a deux jours. C'est du 10 au 14 juillet du côté de La Rochelle. Et on a Yarol Poupeau qui a foulé de nombreuses fois la scène Saint-Jean d'Acre. Bonjour Yarol et merci d'être avec nous.
Ben, merci à vous.
Et un très bel album qui s'appelle Hot Like Dynamite. Est-ce que je l'ai bien dit ?
Dynamite.
Dynamite, on est bien en anglais.
Voilà, Dynamite.
Bon, Yarol, un très bel album. Raconte-nous un petit peu l'histoire et le vécu de cet album. Comment il a vu le jour? Comment ça s'est passé?
Écoute, c'est un album qui est né pendant la tournée précédente en 2019. On était beaucoup sur les routes et pendant l'été 2019, on a fait des petites pauses entre différents festivals, différents concerts. Et avec les copains, notamment avec Victor Mécanique qui m'accompagne, on s'est retrouvés à la campagne avec un peu du temps devant nous. Et on a commencé à faire ce qu'on appelle des jams, des buffs, à jouer ensemble comme ça, sans vraiment réfléchir, sans se dire on va faire un nouvel album. Mais petit à petit, il y a des morceaux qui sont nés, il y a des riffs, des espèces de couleurs musicales, des mélodies, des chansons qui ont commencé à naître. Et on s'est dit, mais est-ce que ce serait pas le début d'un nouvel album, ça? Et donc on a continué.
Moi, ce que j'aime, voilà, quand j'écoute l'album, c'est que là, on entend l'instrument, on entend vraiment ça joue, ça gratte, ça envoie dans tous les sens.
Oui, c'est le but du jeu. Moi, j'aime bien effectivement les disques qui sont variés, qui sont éclectiques et qui vont un peu dans tous les sens. Moi, c'est les disques qui m'ont fait fantasmer quand j'étais môme, les grands albums, je sais pas, des trucs de Led Zepp, même des trucs des Beatles ou des Clash qui font effectivement des disques dans lesquels souvent il y a du suspense et il n'y a pas qu'une seule couleur musicale. Et moi, c'est ce que j'ai toujours aimé faire depuis le début, que ce soit en travaillant avec FFF avant ou avec plein d'autres gens. Il y avait plein de directions musicales, funk, rock, un peu hip-hop, un peu électronique, un peu rhythm and blues, un peu plus rétro, plus vintage.
T'as vu pendant de nombreuses années à jouer sur scène derrière Johnny et tellement d'autres aussi. Cet album, pour le coup, voilà, c'est chouette de pouvoir te voir vraiment là en solo avec Victor, hein, bien sûr, en duo et de pouvoir défendre, voilà, tes œuvres là pour le coup.
Bah ouais, c'est déjà le deuxième que je fais comme ça. Ouais, bah c'est super. Moi, j'en suis ravi justement de. En fait, moi, j'ai pas travaillé avec grand monde. J'ai travaillé avec FFF, donc c'était mon groupe, quoi. C'était vraiment un groupe. Après, j'ai bossé. J'ai travaillé avec un chanteur jamaïcain qui s'appelle Winston McAnuff. J'ai travaillé avec un groupe africain qui s'appelle du Congo qui s'appelle Jupiter et Okwes International. J'ai travaillé en fait avec plein de gens, mais la seule personne que j'ai accompagnée en tant que musicien sur scène et tout ça, c'était Johnny. C'est tout. J'ai pas fait ça pour beaucoup de monde. En fait, moi, je suis ravi là justement de défendre un peu mes chansons. De me confronter à cette position de frontman, comme on dit, et d'être sur le devant de la scène avec le micro, c'est assez marrant, c'est nouveau pour moi.
Et là, c'est réussi, franchement. Deuxième album, vraiment dans les bacs cet été. On a plusieurs sonorités, hein, malgré tout. Hein. On n'est pas que dans du rock fort, moi, ce que j'appelle, mais voilà, on a vraiment beaucoup de sonorités différentes dans cet album.
Bah oui, comme je te disais, c'est ce que j'aime, moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc, parce que ma culture musicale est comme ça, et c'est, j'essaie de faire en sorte que ça se ressente dans la musique que je fais. C'est-à-dire que, effectivement, il y a des chansons comme Bullet qui sont plus inspirées, vraiment très rock, presque à la limite d'une espèce de hard. Et puis il y a une balade comme La Pluie. Il y a des morceaux plus funk comme Hot Like Dynamite. Et même au sein de certains titres, j'aime bien aussi mélanger les influences à l'intérieur d'un même morceau, quoi.
Ouais, c'est ça qui est chouette aussi. Est-ce que t'as des grands souvenirs sur scène? Quels sont tes plus grands souvenirs de scène? Que ça soit en solo pour le coup, ou en accompagnant en tant que musicien.
J'en ai vraiment beaucoup. J'ai des souvenirs de concerts de l'époque de FFF. Peut-être la première fois qu'on a joué à l'Olympia, c'était fou. Ensuite, j'ai des souvenirs de concerts aussi qu'on a pu faire à l'époque à l'étranger, complètement dingue, en Indonésie ou dans des lieux assez fous. Mais effectivement aussi avec Johnny, et notamment, je me rappelle de la dernière fois qu'on avait joué au Franco là, à Saint-Jean d'Acre, c'était complètement fou. Oui, ça fait partie des très beaux souvenirs.
C'était complètement dingue, on y était et je peux dire qu'on a vécu un très bon moment avec vous. On va faire découvrir un premier extrait de cet album. Lequel tu as envie, tiens, maintenant, Yarol?
Eh ben moi, je dirais qu'on peut écouter Hot Like Dynamite, qui est donc le titre de l'album.
Eh ben on l'écoute tout de suite, on revient juste après avec toi.
We'll be right back.
Yarol Poupeau est notre invité aujourd'hui. Alors les Franco ont démarré, et on le disait à l'instant, c'est un de tes plus beaux souvenirs aussi, les Francofolies de La Rochelle. Ça a dû vraiment te manquer de pas pouvoir défendre cet album sur scène. Est-ce que là t'es vraiment heureux de pouvoir retrouver le public et de pouvoir retrouver le chemin de la scène enfin après tout ce qu'on vient de vivre?
Ah oui, on est très très heureux de reprendre les routes, de remonter sur scène. Bah, il se trouve que l'album vient de sortir, alors c'est cool, ça correspond un petit peu avec le redémarrage des concerts, donc ça se passe bien. La grosse tournée sera vraiment pour début 2022.
Passera un petit peu partout en France, des salles parisiennes déjà prévues.
Oui, alors il y a déjà une salle parisienne de prévue le 17 novembre, la Maroquinerie, qui est un club, une salle parisienne que j'aime beaucoup. Donc le 17 novembre à la Maroquinerie, et on verra pour la suite, à mon avis, il y aura une autre salle parisienne au printemps 2022.
Alors t'es accompagné de Victor aussi sur scène, hein, qui est ton comparse et qui va sortir un album d'ailleurs en septembre. Victor, parce qu'il est avec toi justement, tiens, tu peux nous rejoindre, viens parler un petit peu avec nous deux minutes, puisque voilà, on a la chance d'avoir un de tes musiciens aussi qui est avec nous et qui va sortir un album en septembre sous le nom de Victor Mécanique, c'est ça?
Alors non, c'est pas ça, le nom c'est bon, par contre l'album est déjà sorti, il est sorti au mois de mars.
Ah bah voilà, donc c'est pas en septembre, alors raconte, parce que t'as parlé de septembre tout à l'heure.
J'ai parlé de la version physique.
Ah oui, donc l'album sort dans les bacs en septembre.
L'album sort en physique, en vinyle uniquement, dans les bacs en septembre, exactement.
C'est ça. Ça va plaire ça aux collectionneurs, ça je le sens déjà. On va y trouver quoi dans cet album justement, Victor, aussi?
Eh bien on va y trouver 10 chansons enregistrées avec Yarol l'année dernière. De la pop, c'est feel good, c'est solaire, c'est très inspiré par les Beatles, par Stevie Wonder, des artistes d'un autre temps mais qui sont toujours très présents dans mon cœur.
Très bien. Yarol, l'alchimie a fonctionné tout de suite entre vous deux justement pour vous accompagner comme ça, pour le produire, Victor, parce que c'est toi qui le produis.
Ouais, ça s'est passé très très naturellement, très simplement. On a commencé à jouer ensemble sur scène. Bon, je l'avais déjà vu faire ses chansons, je trouvais qu'il avait vraiment du talent et que son écriture était assez bluffante. Et donc on a commencé à travailler sur mes chansons avant, et puis petit à petit il a commencé à me jouer des titres à lui, et j'ai été vraiment très très impressionné, et on a commencé à les produire, à les enregistrer, et ça s'est fait d'une manière très très naturelle et très fluide.
Est-ce que tu rêves de collaboration peut-être avec certains artistes pour un album futur? Est-ce qu'il y a des artistes français ou européens avec lesquels tu aimerais collaborer pour un duo par exemple?
Bah, évidemment, il y en a plein, il y a des énormes stars, j'adorerais travailler avec Jack White ou avec Bruce Springsteen ou avec des grands noms comme ça du rock international. Et en France, j'aimerais bien travailler avec des gens de la musique électronique. J'aimerais bien travailler par exemple avec Justice. Et puis après, c'est des histoires de rencontres. Je sais pas forcément sur le papier. J'aimerais bien voyager aussi, quand il recommençait à aller travailler à l'étranger, peut-être aller bosser au Brésil, aller bosser en Amérique du Sud, au Mexique, peut-être rencontrer des artistes mexicains.
S'inspirer? Peut-être aussi, qu'est-ce qu'il faut justement, où tu puisses ton inspiration quand tu écris, quand tu composes comme ça, quelles sont, on va dire, les conditions idéales pour toi, pour pouvoir composer et être inspiré?
C'est difficile à définir, c'est pas forcément, des fois on peut se mettre toutes les conditions idéales, on dit ok là je vais m'isoler, machin, je vais me bloquer pendant 15 jours et puis il n'y a rien qui sort, et puis des fois alors qu'on a plein de trucs à faire, c'est à ce moment-là qu'il y a des idées qui viennent. Non, si, moi je sais que j'aime bien effectivement, quand on travaille sur un album, j'aime bien être isolé, j'aime bien être coupé du monde et n'avoir que la tête concentrée, enfin que la tête à fond là-dedans et pas forcément être dans un environnement avec un quotidien comme
plus solitaire, quoi.
Voilà. Solitaire ou à deux ou à trois, mais vraiment être rien d'autre à penser que faire de la musique.
Bon, la scène cet été, il va y avoir quelques dates qui arrivent là maintenant.
Bah, la scène cet été, oui, carrément. Là, on a commencé déjà depuis fin juin et on a des concerts jusque fin juillet, août on bosse pas. Il reprend quelques trucs en septembre. Mais donc là, pour l'instant, nous, la grosse date parisienne, c'est le 17 novembre.
Le rendez-vous est pris à la Maroquinerie, ça sera le 17 novembre prochain. Yarol, pour terminer, on va écouter un deuxième extrait de ton album Hot Like Dynamite. Je l'ai bien dit là?
Hey, parfait.
T'as vu, hein? Alors lequel t'as envie maintenant qu'on écoute? Allez, c'est toi qui le choisis, et pourquoi? Et pourquoi surtout, bah, tu choisis?
C'est la chanson qui s'appelle Comme la pluie, que le dernier single, là, le clip vient de sortir, il est magnifique. Et c'est un duo avec le mec à qui j'ai écrit les textes en français de cet album qui s'appelle Lescope. Donc voilà,
on va, bon, allez, on va l'écouter maintenant. Merci à toi, Yarol, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Victor, aussi, de nous avoir fait une petite incursion également. Je rappelle que ton album est sorti uniquement pour l'instant en téléchargement légal et qui sortira sur les plateformes, voilà, et qui sortira en physique, notamment en vinyle. Ça sera en septembre. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous et on vous dit à très bientôt.
C'est cool. Merci, ciao.
Merci beaucoup.
Et bonne franco.
Dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain, dans Chute, on écoute la télé, nous aurons le grand plaisir de recevoir la grande gagnante de The Voice pour terminer la saison, Marguerite, qui sera donc notre invitée. On aura le plaisir également de consacrer une partie de l'émission au film C'est quoi ce papy ? Patrick Chenet, Julie Gaillet et Gabriel Julien Laferrière seront nos invités pour en parler. Le film sortira le 11 août au cinéma. Et puis bien d'autres surprises évidemment vous attendent avec une spéciale francophonie de La Rochelle.
FM.
Écoutez-vous.
Allez, n'oubliez pas que Chute en écoute la télé, c'est toute la semaine avec La Quotidienne à 8h40, 13h15 et 19h sur Kaolin. Retrouvez également cette émission en podcast sur notre site internet onécoutelatélé.com. Et pour rester connecté avec nous, rendez-vous sur notre page Facebook et Instagram Chute en écoute la télé. Et téléchargez dès maintenant nos applications pour iPhone et Android. Chute en écoute la télé. Cette émission sera également rediffusée ce soir à 19h. Et je vous retrouve donc également lundi prochain à 14h et 19h pour la grande hebdo. D'ici là, passez une très belle semaine à l'écoute de nos programmes sur Kaolin.
Chute, on écoute la télé. Avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse, un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.
Chute, on écoute la télé. Avec votre magasin But de Saint-Thierry-et-la-Perche. Ameublement, literie, électroménager, décoration. Et pour tout projet de cuisine, l'équipe de projet et conception vous attend. Zone commerciale d'Arfeuil, route de Limoges, à Saint-Thierry-et-la-Perche.